Tech & Co.
Le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, toute la tech, c'est chaque soir sur BFM Business, 20h, 22h, Tech & Co. Et la tech aujourd'hui, c'est l'espace. Bien sûr, on en parle souvent, mais c'est aussi l'aéronautique avec des pépites françaises, bien sûr, européennes, qui n'ont plus rien à démontrer. Et justement, on va évoquer ce soir un peu l'aviation, l'avion de demain, qui est en train de se dessiner du côté d'Airbus. Et on va en parler avec notre invitée Isabelle Lacasse, qui est là. Bonsoir, Isabelle.
Bonsoir.
Vous êtes la responsable du démonstrateur Dragonfly. Dragonfly, Airbus Up Next. Avec nous aussi ce soir, c'est Jean-Baptiste Huette. Salut Jean-Baptiste.
Bonsoir François, ça va.
Ravi de te recevoir sur le plateau de Tech & Co, journaliste à BFM Business, bien évidemment, et spécialiste aéronautique et passionné par tous ces sujets. On va rentrer dans les détails avec notre invité qui est sur ce plateau, mais auparavant, peut-être revenir un peu sur ce contexte. Ça y est, on est en train d'inventer un avion autonome. En quelque sorte.
Très intéressant ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce qu'effectivement, plus qu'un avion autonome, j'allais même vous dire un avion intelligent. Expérience. Il y a quelques semaines, lors d'un vol entre Limoges et Lyon, vous avez un Airbus A350 000, qui est le gros porteur de la gamme, qui s'est déclaré en incapacité. Ça veut dire que les pilotes ne sont plus capables de piloter l'appareil. Et à ce moment-là, vous avez les algorithmes du programme du démonstrateur Dragonfly qui sont entrés en action. Et donc, ces algorithmes de Dragonfly ont élaboré en temps réel un nouveau plan de vol en fonction du trafic aérien, en fonction de la météo. Ils ont été, alors ça c'est la grande prouesse, ils ont été capables de générer une voie synthétique pour s'adresser aux compagnies aériennes et au trafic, pour leur dire attention, on a un problème, on a changé de route, on va devoir s'en aller. Et donc l'avion a terminé comme ça, donc c'est un déroutement automatique, c'était du jamais vu. Et donc la 350 s'est ensuite posée seule, sans aucune intervention humaine, et il a même rejoint son parking de manière vraiment seule. Donc plus que l'avion autonome, là on rentre vraiment dans le monde d'après, vraiment dans l'avion intelligent capable de prendre des décisions.
Alors évidemment tout ça était un exercice, bien sûr, les pilotes allaient bien, c'était pour voir si tout fonctionnait. Isabelle Lacasse, aujourd'hui, on peut dire que un avion, alors ne peut pas se passer de pilote. On est d'accord pour des raisons évidemment nombreuses, mais techniquement, technologiquement, aujourd'hui, on sait faire décoller, faire voler et atterrir un avion grâce à la tech, grâce à l'innovation.
Dans l'ambition du démonstrateur Dragonfly, effectivement, on est allé explorer le champ des possibles via la tech. Donc, notamment la partie traitement d'image, reconnaissance vocale qui a été mentionnée là, mais aussi plein d'algorithmes autour de la prise de décision, ce qu'on peut en faire au niveau de l'avion. Et notre ambition au niveau Dragonfly, c'est de développer tout un jeu d'assistance pour l'aide au pilotage. Et c'est ce que nous avons fait, en fait, fin de l'année dernière, en termes de démonstration en vol, en environnement réel, ça veut dire en espace aérien avec les vrais avions autour, où en fait on a effectivement opéré un déroutement d'un avion de manière automatique, avec l'atterrissage automatique associé. Et en parallèle, on a aussi évalué différents niveaux d'assistance par rapport à la partie taxi au sol, pour aider l'équipage à gérer la partie taxi.
Parce qu'on est d'accord, Jean-Baptiste, que l'automatisation dans un avion, ça fait des années que ça existe. On est d'accord.
J'allais vous dire, c'est pas très original. Effectivement,
c'est pas très original.
C'est vrai.
Évidemment, le être pilote commandant de bord, c'est très important et évidemment, ils sont indispensables. Mais aujourd'hui, ils ont des aides technologiques depuis de nombreuses années qui leur permettent, en fait, de faire une grosse partie du job grâce à la technologie.
Quand vous êtes sur des très longs trajets, je parle sous votre contrôle, mais quand on est sur des, notamment, vous connaissez bien la 330 aussi, qui est quand on est sur des très très longs trajets comme ça, le pilote souvent peuvent désactiver le pilote manuel et passage en automatique, et l'avion file tout seul, comme ça, évidemment, sous le contrôle. Mais ce qui est très intéressant avec Dragonfly, c'est que, on le sait, l'alpha et l'oméga pour les compagnies aériennes, c'est toujours plus de sécurité, toujours plus de sécurité. Il y a eu un tragique accident, alors c'était pas vous, c'était le concurrent américain, on est en 2005, c'est la compagnie grecque Helios. Vous avez un avion qui est tombé parce que les deux pilotes, il y a eu un problème, la cabine s'est dépressurisée et les pilotes sont tombés, se sont évanouis.
En quelques secondes,
se sont évanouis.
En fait,
et donc l'avion est tombé. Et là, effectivement, ce type de système vise à éviter ce genre de problème. Je crois que c'est une question de sécurité avant tout.
Isabelle, comment ça marche là dans ce cas précis? Admettons qu'il y ait un incident en cabine, en cabine de pilotage, sans intervention humaine à distance, l'intelligence artificielle de l'avion va détecter une anomalie et va reprendre la main, en fait, sur les pilotes, c'est ça? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un ordre, malgré tout, à distance d'une tour de contrôle? Comment ça marche ?
On a pu imaginer par rapport à ce qu'on appelle un déroutement, voire un déroutement automatique dans ce cas particulier. Ce qu'on a imaginé, en fait, c'est tout le type de possible pour avoir l'intelligence à bord de l'avion. Donc l'avion de lui-même est capable de détecter si les pilotes sont encore capables de contrôler l'avion et de l'amener au sol, donc au sens ne plus être évanoui.
Monitorer, être évanoui.
Ça veut dire aussi savoir détecter automatiquement quel est l'aéroport de déroutement le plus pertinent par rapport à la situation à gérer. Et ça veut dire aussi savoir identifier la trajectoire tout en évitant le relief, peut-être des cellules orageuses, des zones militaires, et voilà, faire l'atterrissage et voler cette trajectoire jusqu'à l'atterrissage automatique.
Mais toute cette information est dans l'avion? Ou est-ce qu'elle est déportée, car l'avion est connecté en quelque sorte?
Non, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un avion totalement autonome sur cette prise de décision et être capable de réfléchir à quelle est la meilleure opportunité. En fait, sur la partie déroutement, alors vous avez cité le cas de Helios, mais on peut avoir des cas où les passagers peuvent avoir il peut y avoir des urgences médicales qui nécessitent un déroutement. Il peut y avoir des pannes particulières qui nécessitent un déroutement. Dans tous les cas, le pilote doit gérer le choix de l'aéroport de déroutement, la trajectoire à voler, etc. Là, en fait, l'idée, c'est de lui proposer en un temps record une proposition de déroutement. Et à la limite, ça peut être exécuté automatiquement.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie en quelque sorte. Ça peut être un conseil, et puis s'il n'y a pas de réponse, l'avion est pris en main en fait par l'intelligence artificielle en quelque sorte.
Voilà, donc on a développé effectivement une fonction qui permet de faire cette prise de décision et de faire le déroutement de manière totalement automatique.
Jean-Baptiste.
On se posait une question avec François en préparant l'émission tout à l'heure, on se demandait de manière benoîte, est-ce que ça peut augmenter un risque X ou Y de piratage, le fait de rajouter comme ça des fonctions qui sont très complexes, qui sont parfois gourmands dans le calcul informatique. Est-ce que ça peut... C'est des nouvelles portes, en fait, d'accès. Est-ce que ça, c'est possible? C'est un danger sur lequel vous travaillez?
Donc, sur tout ce qui est basé par rapport à la cybersécurité de manière générale, je dirais que là, dans le cadre du démonstrateur, déjà en particulier, ou des fonctions qu'on imagine, la décision est bord. Donc, on n'a pas besoin d'assistance au sol en termes de communication sol-bord. Donc, déjà, ce risque-là est anticipé dans notre design. Mais de manière plus générale, au niveau Airbus, en fait, il y a différents mécanismes qui ont pu être développés pour se prévenir toutes les cyberattaques. Au niveau des systèmes avions en particulier, il y a des solutions qui sont mises en place et c'est partie des hypothèses de design pour les ingénieurs. Donc voilà, c'est un classique en termes de design des systèmes et Dragonfly sort dans la même veine.
Alors vous avez testé tout cela sur un Airbus A350 qui est un peu le fleuron d'Airbus, voilà, un avion ultra moderne, très confortable que j'ai pu emprunter quand je suis parti aux États-Unis. Et c'est vrai que voilà, plus silencieux, mieux équipé, plus confortable, etc. Mais j'imagine que cet avion nécessite des capteurs que les autres avions n'ont pas, non? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un avion spécial que vous avez créé pour l'occasion ou en fait tous les A350 sont compatibles avec cette technologie?
Donc là, on a vraiment utilisé un A350 d'essai en vol Airbus. Donc on va dire qu'il est, c'est une plateforme beaucoup plus flexible que les avions qui sont livrés en compagnie. Sur cet avion, on a effectivement, par rapport au traitement d'image, bardé l'avion d'un certain nombre de capteurs, de caméras dans le visible. Enfin, vous avez tout à l'heure mis le nez de l'avion avec les trois caméras, mais il y en a plus que ça, en fait, en termes de capteurs autour pour faire le traitement d'image. On a installé des nouvelles interfaces, des IHM pour le cockpit. Pareil pour les opérations qu'on veut mener sur la partie taxi. On a installé différents équipements qu'on peut se permettre d'installer effectivement sur un A350 d'essai. Mais ça veut dire que dans le futur, si on imagine que cette solution est viable, qu'on veut aller plus loin, il suffira d'équiper les avions de la même manière.
Jean-Baptiste.
Et justement, dans le futur, alors moi je me projette à, j'en sais rien, allez, on va dire 15 ans, 20, enfin, peut-être avant en fait, on sait 10 ans, 15 ans, mais je pense aux autorités de régulation du secteur aérien qui sont toujours très 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 strictes, notamment l'agence de sécurisation, enfin de l'autorité européenne ou la FA américaine qui est aussi assez impitoyable. Est-ce que vous pensez que ce type de solutions sont à même d'être validées un jour par les autorités, ou alors est-ce que c'est le début d'un très 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 long chantier, d'un très long travail qui va s'étaler sur
Une démonstration technologique en fait de votre savoir-faire?
Donc effectivement, dans le cadre du démonstrateur, déjà, ça fait partie d'une étape dans la recherche côté Airbus avant que la fonction voie le jour, parce que, comme vous dites, la partie développement et certification est quand même la dernière phase et prend du temps pour être acceptée parce que les niveaux de sécurité sont très élevés. Et pour Airbus, c'est quelque chose de très important. Donc nous, dans notre partie recherche, la partie démonstration, ici à l'échelle 1, en faisant voler le concept d'assistance au pilotage, on pense que déjà il y a une réelle valeur en termes d'amélioration de la sécurité des vols, en termes d'efficacité des opérations aériennes, notamment sur la partie aéroportuaire, plateforme aéroportuaire. Et on pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée et on espère que derrière des décisions seront prises pour aller dans ce sens-là. Mais il faudra quelques années avant que ça puisse voir le jour.
Quelques années, c'est combien? 3, 4, 5, 10 ans avant que vous ayez tous les feux verts?
Encore une fois, le processus est assez long et nous, dans le cadre du démonstrateur, déjà, il faut terminer le démonstrateur en tant que tel et ça sera début de cette année. On va terminer une séquence encore d'essais vols pour valider justement cette valeur et se dire quelles sont les prochaines étapes, remettre ces recommandations pour qu'il y ait des décisions pour aller dans les prochaines étapes.
Pour aller plus loin.
Absolument.
Petite question concernant les pilotes, parce que j'ai cru lire de ci, de là, que les pilotes n'étaient pas franchement contents de voir arriver ce type de fonctionnalité. Alors, je tire le train encore plus loin. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de préparer un avion autonome, un avion bien pratique pour les compagnies aériennes, qui coûterait encore moins cher, parce que finalement, il n'y aurait plus de pilotes à bord et qui serait tout aussi sécurisé?
Je pense qu'on est assez convaincu que les pilotes seront toujours là dans les cockpits dans le futur. L'idée de ce concept...
On parle beaucoup, excusez-moi, je vous coupe, mais on parle beaucoup de drones électriques sans pilote. Alors, on sait que, à chaque fois, tout ça est reculé parce que c'est pas au point, mais c'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir.
Donc sur la partie drone, ça ne fait pas partie du champ de ce démonstrateur, donc je ne serais pas à même de répondre à ces questions-là. Je pense que dans la partie démonstrateur, vraiment, on s'est attaché à des problématiques actuelles des opérations aériennes qu'on a souhaité traiter, donc sur des concepts des cockpits existants, donc opérés par deux pilotes. Et c'est vraiment notre hypothèse de design de ces fonctionnalités pour lesquelles il y a une vraie valeur ajoutée.
D'accord, donc pas de stress pour les pilotes aujourd'hui, bien évidemment.
C'est plutôt des assistances, et je pense que dans les retours qu'il y a pu y avoir suite aux communications, il y a aussi des pilotes qui voient une vraie valeur ajoutée en termes d'assistance, notamment sur les phases de taxi, sur ces types de solutions.
Jean-Baptiste, quand on voit tout ça, on se dit que finalement c'est aussi une brique supplémentaire pour avoir encore plus de sécurité dans un moyen de transport qui est le plus sûr au monde. Ouais. Et c'est incroyable, en fait, évidemment. Chaque fois qu'il y a un accident, c'est un drame, mais c'est rarissime, c'est de plus en plus rare. Et on se dit qu'à chaque fois, on peut mettre la barre encore plus haute, finalement, grâce à la technologie.
Je disais tout à l'heure, évidemment, c'est la sécurité dans l'aérien, c'est l'alpha et l'oméga. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une question de business. Regardez ce qui s'est passé avec Boeing et le 737.
Catastrophe.
Les accidents du 737 MAX, ça n'a pas touché que Boeing.
Non.
Ça a touché l'intégralité de l'écosystème aéronautique. Donc, ce sont des questions qui sont prises, évidemment, qui sont absolument majeures. Et effectivement, là, ce type de briques, comme vous dites, François, qu'on ajoute les unes après les autres. Alors, il y en a peut-être, vous nous disiez, certaines qui ne sont jamais utilisées. Hein. Peut-être que Dragonfly, Airbus va décider un jour de dire... Non, finalement, on n'a pas les crédits, j'en doute, mais bon, on part peut-être sur autre chose. Voilà, en tout cas, c'est de la recherche et des idées. Et c'est aussi ce qui est très intéressant avec ce programme-là, c'est qu'on parle de Dragonfly, qui est comme la libellule, parce qu'elle a des yeux et qu'elle voit à 360 degrés. Et ça, c'est une des lubies, si j'ose dire, d'Airbus ces derniers temps, c'est le biomimétisme. C'est s'inspirer de la nature, des animaux. Il y a un autre programme, notamment, qui s'appelle Albatros, où on a des avions, où on a des projets d'avions qui pourraient plier les ailes un peu comme les oies.
Enfin, redessiner, en fait, le design des avions.
Exactement, ou qui se suivent les uns après les autres, comme le sillage des oiseaux. Donc il y a ces réflexions-là aussi qui sont très intéressantes à voir, hein, comment le biomimétisme arrive et s'insère, en tout cas, dans l'aéronautique et chez Airbus, en tout cas.
Voilà. Merci beaucoup, Isabelle Lacaze, d'être passée par le plateau
de
Tech & Co. C'est passionnant, tout ça. Vous êtes responsable de ce démonstrateur Dragonfly de chez Airbus Up Next. Et merci, Jean-Baptiste, pour tes lumières. Et à très vite sur BFM Business.